Pour parler du langage Ruby, il nous fallait un spécialiste de ce langage et qui travaille aussi dans son framework star, Ruby on Rails. La perle rare, figurez-vous qu'on l'a trouvée et que notre invité est même venu dans notre studio aujourd'hui. Nous recevons donc Bruno Perle, CEO de Atnos, agence de développement web et mobile fondée en 2007, développeur web en Ruby on Rails et non spécialisé en perle malgré ce que dit son nom, mais fils de Jean-Noël Perle qu'on a eu pour parler des ordinateurs de voiture et on ne l'a même pas fait exprès.
Énorme.
C'est énorme. Et le plus drôle, tu vois, c'est que ton nom, j'avais noté le nom de ta boîte et ton nom, mais j'avais pas fait les liens entre les deux. Et c'était il y a 4 ans.
Il y a pas si longtemps que ça. Hein.
Donc c'est assez amusant. Et ben justement, Bruno, comment es-tu venu au langage Ruby?
Un peu par hasard. Et pour être honnête, je faisais du Perl quand même avant.
Bon, on vous explique, c'est parce que j'ai mal posé la question et j'ai dit langage Perl. Donc voilà.
Voilà,
donc en
tout.
Plus, ça fait effet du Perl.
C'est ça.
Mais c'est pas le même niveau de verbosité. Hein.
Non.
C'est pas du tout la même structure.
Pas du tout. Et en fait, un petit peu par hasard. J'ai monté ma boîte en 2007 et j'ai répondu à un appel d'offres sur Internet d'un gars qui voulait absolument se séparer d'un client. Et il avait fait tout le site Internet en Ruby on Rails. Du coup, j'ai récupéré son client. J'ai dû, dans 2 mois, apprendre tout le langage. Et me voilà avec mon premier client en Ruby on Rails. Et depuis, j'ai pas arrêté de faire ça.
Et tu as gardé ce client ?
Et j'ai gardé ce client, ouais. Mmh. Ah
ouais. Et du coup, ça, comment elle a été justement l'étape d'apprentissage ? Ça a été une grosse marche à prendre ou ça a été plutôt facile ?
Quand tu sors de l'école, avec avoir fait un peu de Perl, du PHP et basculé sur un gros site déjà conçu en Ruby on Rails, j'ai passé 2 mois costaud.
Ah ouais. Ouais, t'as dû quand même un petit peu souffrir, mais quand même, ça t'a pas
dégoûté.
Oui,
mais à côté, en ayant fait du Perl et du Python, en fin de compte, l'apprentissage est passé beaucoup plus rapidement. Je pense que Perl et Python m'a vraiment aidé, mais le langage est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus joli à lire et beaucoup plus facile. Donc, globalement, ça s'est bien passé.
Mmh. Quand est né le Ruby et qui l'a créé?
Alors, qui l'a créé? C'est Mats. Je j'ai jamais son nom en tête parce que vers 1993 par là, 1993-95, et du coup c'est un japonais. Et il était un peu frustré d'avoir fait quelques langages, je sais plus les noms, Lisp et
ouais, je crois que c'est Lisp et Smalltalk d'ailleurs. Ouais. Ça m'a surpris d'ailleurs qu'il en dise du mal d'ailleurs de Smalltalk alors que ça reste quand même relativement lisible
et encore utilisé de mémoire.
Oui.
Alors, pas partout, mais je pense que dans le web, maintenant, pas trop. Et ouais, il était frustré et il a décidé de faire un langage complètement et uniquement orienté objet en Ruby. Et comme tu l'as dit précédemment, la documentation, était uniquement en japonais. Donc, ça a été un petit peu difficile de le mettre sur les rails.
Ouais, parce que... Oh, joli.
Bravo.
Joli. Oui, parce que moi, je m'y étais intéressé justement au Ruby, si je me souviens bien, 2008, 2010, et très rapidement, documentation qui était intéressante, aïe.
Et 2008, c'était son apogée.
Je me souviens plus de mes kanji.
Ouais.
Parce qu'en plus, c'était pas un japonais bas niveau. Hein. On était dans les règles avancées plus.
C'est ça.
Et d'ailleurs, puisque ben justement, on n'arrête pas de faire la blague depuis qu'a commencé l'enregistrement, est-ce que Ruby a une descendance avec Perl ?
Non, je crois pas. Il s'est inspiré aussi hein, de Perl et de Python, mais pas spécialement, je crois pas.
Pour quel usage le Ruby a été créé au tout début ?
Langage de programmation, c'est sûr qu'on va pas faire du machine learning avec. C'était à l'époque quand même un langage qui était aussi un peu lent. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a pas popularisé comme ça devait l'être. Mais on peut faire tout ce qu'un autre langage peut faire. Hein. On prend du Python, alors tout ce qui est scientifique peut-être pas. Python est peut-être plus adapté, mais tous les langages PHP ou autres, on peut faire exactement la même chose.
Qu'est-ce que le Ruby en soi ? C'est un langage interprété, mais il est basé sur quel principe ? Alors, c'est vrai qu'on a été un petit peu lourd, peut-être, sur le langage objet.
Bref, tout est objet. Le principe, enfin, s'il y en a plusieurs, le principe, c'est que tout est objet, et Mats voulait absolument un langage clair, facile à comprendre, et facile à utiliser. Voilà, c'était vraiment le principe, c'est... Tout est objet. Si je déclare un entier 1, 1 c'est un objet. Je peux le transformer en string. Je peux faire n'importe quoi avec. Et le langage est globalement très facile à utiliser. Mm. C'est pour ça qu'il a été conçu.
Mm. Et toi-même, du coup, t'as été jeté très vite dans le bain pour apprendre. À partir de quel moment t'as considéré que tu avais une compréhension réelle du langage ?
Alors, ça c'est une bonne question.
J'ai que des bonnes questions.
Ouais, je ne m'étonne pas. Non, on peut... Il y a la courbe d'apprentissage est quand même assez importante. On peut faire des choses très vite, très bien, mais aussi on peut faire des choses très vite et très mal. Forcément, les bonnes pratiques viennent avec le temps. Donc, je dirais qu'il m'a bien fallu quand même 5, 6, 7 ans en faisant que ça pour comprendre tous les concepts, surtout quand plus quand on sort de l'école. Bon, on a beaucoup de choses encore à voir, hein, tout ce qui est metaprogramming, block, proc, etc. En Ruby, il faut le comprendre pour l'utiliser, et sinon on l'utilise pas et on se retrouve à faire des...
On réinvente la roue, on se complexifie
exactement,
la tête. Ouais.
Exactement.
Mmh. D'ailleurs, c'est un langage sur lequel il y a assez peu de sucre syntaxique, je trouve, où il n'y a pas d'exagération sur la typographie pour arriver à ce que l'on veut, quoi.
Non, c'est c'est très succinct, ouais.
La syntaxe est vraiment claire, c'est assez peu encombré. C'est ça qui m'a surpris, du coup, justement, c'est qu'il y avait des mots-clés, mais ça ne le rendait pas trop verbeux, en soi. Est-ce que le Ruby est un langage de prototypage ou d'apprentissage?
Le Ruby est vraiment utilisé pour tout. Je dirais que si on a un concept, on est une start-up, on a un concept, on a un MVP à faire ou autre, le Ruby est complètement adapté. On peut faire un prototype.
MVP, donc il faut expliquer, c'est un minimum viable product. Donc c'est
un produit minimum viable.
C'est le minimum pour démarrer un projet.
C'est ça. Et donc du coup, on peut aller très vite et faire beaucoup de choses très rapidement. Donc c'est surtout pour ça que les startups l'utilisent, et toujours aujourd'hui, hein, malheureusement, tout le monde pense que le PHP est le langage utilisé en grosse majorité, mais globalement, pour les startups partout sur la planète, le Ruby est très très utilisé. Et après, derrière, on peut très bien transformer et ou refaire son MVP toujours avec le même langage, et la preuve en est, il y a énormément de gros sites avec des millions d'utilisateurs qui tournent sur Ruby on Rails.
Heureusement, on ne va pas réinventer systématiquement la roue. Il y a beaucoup de bibliothèques, je suppose, qui existent. Est-ce que le Ruby, justement, a une bibliothèque qui est conséquente? Un peu comme quand on regarde en Python ou en PHP, il y a énormément de bibliothèques qui sont disponibles, ou elle est un peu plus restreinte de par la base d'utilisateurs?
Complètement pas. Elle n'est pas du tout restreinte. Elle est très large, on peut. C'est très rare d'avoir une problématique de développement et ne pas trouver une librairie qu'on appelle les gemmes associées. On a besoin de faire un PDF, on a besoin de faire une connexion API, on a besoin de faire n'importe quoi, on le trouve très rapidement, et en général, elles sont maintenues, utilisées, il y a beaucoup de contributeurs, et ça fonctionne à merveille.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Bruno Perle, CEO de Atnos et développeur en Ruby. Et justement, sur ce langage qui est très très orienté objet, mais minimalisant la structure, j'ai l'impression que ça oblige aussi, en soi, à une réelle lisibilité.
C'est super important en Ruby. Ouais. Notamment, on peut faire du code complètement illisible, ça m'est arrivé de tomber sur des bouts de code où je me suis un peu cassé la tête, mais si on connaît bien le langage, on fait quelque chose, même un développeur senior va faire quelque chose de très lisible et qui va être compris par un débutant. Donc c'est le gros avantage de ce langage-là.
Parce que c'est ça qui m'a surpris par rapport à du code, justement, en PHP ou en Python. On arrive quand même rapidement à aller dans des bibliothèques, à regarder le code source, à
comprendre ce qui se passe.
À comprendre la syntaxe, c'est quand même surprenant. Dans Ruby, on peut intégrer aussi des fonctions qui font appel à du code extérieur à la fonction grâce au mot-clé yield. Alors, c'est surprenant parce que du coup, c'est comme si on avait un callback, mais un seul callback qu'on peut intégrer. C'est beau, mais à la fois, ça peut intégrer quand même une certaine faiblesse.
On peut le voir comme une faiblesse. Après, le yield qui est utilisé avec les blocs, les procs ou les lambda, c'est très performant, surtout quand on a besoin de réutiliser des bouts de code un peu partout. On peut très bien, dans diverses classes, travailler sur des variables ou des fonctions, et après passer le résultat à une autre fonction qui va l'exécuter selon certains cas de figure, et donc avec certaines variables, etc. Et du coup, c'est très... Ça permet justement de garder cette lisibilité du code. Mmh. C'est le gros avantage de Yield.
Mmh. Du coup, on a très vite des structures genre machine à état et tout ça qui se conçoivent. Il y a vraiment des patterns qui sont très très réguliers dans le langage Ruby.
Globalement, oui, il y a certaines choses qu'on retrouve très souvent et qu'on peut facilement. Une fois qu'on l'a fait et qu'on comprend le fonctionnement, on arrive très vite à se dire, ok, je vais faire comme ça parce que c'est, on gagne du temps, on va pas répéter le code. Le dry prend tout son sens, don't repeat yourself, avec ce système là justement.
Mmh. Ce qui fait que en fait on est vraiment incité quoi finalement à faire des petits bouts de code par la construction même du langage. J'ai l'impression là où justement ça on y arrive mais par d'autres méthodes de programmation dans d'autres langages, notamment le TDD. C'est assez surprenant que le langage lui-même guide à aller vers l'atomicité finalement de la fonction.
C'est exactement ça. Et du coup on se retrouve avec des méthodes, des classes service métier ou autres, avec des méthodes qui sont assez légères et en fin de compte qui appellent d'autres classes ou méthodes ou qui imbriquent des résultats de fonctions, etc. Donc c'est très lisible, c'est très maintenable et c'est très facilement évoluable. Ça se dit évoluable, ouais.
Oui.
Donc voilà. Donc c'est vraiment le gros côté positif de ce langage-là. Mmh.
À la fin des années 2000, le Ruby commençait à devenir un langage très pop. C'est le cas de le dire, hein, via les startups et tout ça, avec un twist. La doc la plus avancée n'était disponible qu'en japonais. Or, comme je l'ai dit en intro, Nihongo no Yomikata ga wakarimasen, donc je ne lis pas le japonais, je ne sais pas le parler d'ailleurs proprement. Il y a eu des efforts justement de traduction de ce côté-là, par quel biais? Ça venait finalement des auteurs de Ruby ou par une communauté qui était bilingue?
Bonne question. Je pense quand même que les Américains se sont un peu pris sur le langage, notamment grâce au framework. Je ne sais plus en quelle année c'était ce framework, Ruby on Rails.
2004.
Ouais.
Ruby on Rails, donc ça a été créé en 2004, ouais.
Donc je pense que les divers développeurs un peu partout sur la planète se sont mis sur ce langage-là et donc ont commencé à rédiger la doc en anglais et comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et vu la beauté du langage, ils se sont dit « Ok, on y va à fond.
» Alors, qu'est-ce que Ruby on Rails, justement?
Alors,
donc, c'est un framework. Enfin, des fois, je sais pas quelle est la différence entre une bibliothèque et un framework, mais bon.
C'est un framework, ouais, fait par, pareil, DHH, David, je sais pas son nom de famille, qui est un Danois, qui, à l'époque, on l'a dit en 2004, c'est ça? Mm-hmm.
David Ennenmeyer Hansson.
Voilà. Donc, on a un langage japonais avec un développeur danois qui se retrouve embauché par Jason Fried aux États-Unis à Chicago pour concevoir le MVP de Basecamp. Pour ceux qui connaissent Basecamp, c'est un système de ticketing, de gestion de projet. Voilà. Et à ce moment-là, donc DHH a décidé d'utiliser le langage Ruby pour créer leur propre framework avec une idée en tête, développer très rapidement leur MVP. Et c'était le but grâce à ce langage-là, parce qu'il est très facile à utiliser. Donc ils ont développé la première version de Ruby on Rails uniquement pour Basecamp, pour leur projet. Et ça a tellement bien fonctionné qu'il y a eu beaucoup de contributeurs. Forcément, ils ont mis le langage en open source, le framework, pardon. Et de fil en aiguille, ça s'est très vite répandu aux États-Unis un peu partout, quoi.
Il faut dire que Ruby on Rails, quand on en parle, c'est systématique, c'est pour le web. Alors pourquoi quand on parle de Ruby, on parle systématiquement que de ce framework? Ça veut dire que finalement Ruby n'a trouvé de débouché que sur le web?
Je pense que Ruby a été propulsé grâce à ce framework, c'est sûr. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le framework Ruby on Rails, il y a Sinatra qui est un autre framework beaucoup plus léger. Si on a un petit site web à faire, rien ne sert de sortir l'artillerie de guerre, Sinatra fonctionne très bien. Il y a eu aussi un projet qui s'appelle toujours Ruby Motion, qui permettait de faire des applications mobiles. Sauf que le concepteur avait décidé de rendre payant la licence d'utilisation de ce framework pour les applications mobiles. Entre-temps, ça a changé. Je crois que maintenant, on peut faire des jeux vidéo, mais ce n'est pas très utilisé. Mais globalement, oui, c'est grâce à Ruby on Rails que Ruby a été mis sur le devant de la scène. Ça a grimpé jusque dans les années 2008-2009 pour être au top. Et là, ça a commencé à descendre.
Mmh. T'as des exemples, du coup, d'applications qui sont faites en Ruby
Applications mobiles ?
Applications mobiles ou même des exécutables sur ordinateur et tout ? Non.
Aucune.
Aucune, dommage.
Il y en a quelques-unes sur les divers stores Android et Apple, mais je pense que c'est...
C'est peanuts.
Ouais, c'est peanuts.
D'accord. Oui, un peu comme les applications faites en PHP.
C'est ça.
D'accord. Et d'un autre côté, on parlait effectivement surtout d'Apple et des startups. Il y a d'autres utilisateurs de Ruby, outre les indépendants. Il y a des entreprises qui commissionnent de ce côté-là les projets dans ce langage.
Il y en a. Il y a même le gouvernement français qui a quelques gros projets sur Ruby on Rails.
Mmh.
On a, nous, avec la société, d'ailleurs, réalisé deux projets pour le ministère des Transports et pour la CNIL, d'ailleurs, en Ruby on Rails. Donc, ouais, il y en a.
D'accord, ok. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Bruno Perle, qui est CEO de Atnos et développeur en Ruby. Alors, Ruby on Rails a influencé nombre de frameworks dans d'autres langages, notamment Quake PHP et Laravel en PHP, Django en Python. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a amené un nouveau concept, Ruby on Rails, en Swift quand il est arrivé ?
Globalement, Jason Fried et DHH ont principalement pensé le framework sous le modèle MVC qu'on connaît plus particulièrement maintenant, hein, qui est le modèle vue contrôleur, et qui permet vraiment de dispatcher les divers composants d'un framework. Donc, le modèle pour tout ce qui est connexion à la base de données, le contrôleur pour tout ce qui est connexion entre l'utilisateur et après la base de données, et la vue, qui est tout simplement le rendu visuel, tout ce qui est HTML, CSS, etc. Et du coup, le fait d'avoir dispatché le framework sous ce concept de MVC a séduit. Clairement, hein, avec PHP et autres, ça leur a permis d'avoir une base, Symfony, je crois aussi, se base un petit peu là-dessus. Hein.
Parce que le modèle MVC, c'était un truc qu'on voyait sur les terminaux connectés à Oracle et tout ça. À la fin des années 70, c'était un truc littéralement d'entreprise. Et là, tout d'un coup, on en a fait un truc qui était simple. Donc, c'est ça qui a...
Ça a permis d'organiser le code. Hein, sans d'un côté, c'est pas plus mal. Et même Angular, un autre concept de mémoire. Je sais plus si c'est MVVM ou...
Ouais, ils ont essayé de chercher un truc comme ça. Mais ouais. En fait, oui, c'est du MVC déjà à la base. Quoi.
Exactement.
Avec ce qui est censé être justement la base de données, en fait, en général, c'est les connexions avec le serveur, les requêtes en JSON ou en XML. Est-ce que tu peux te donner des exemples de sites qui ont été écrits en Ruby on Rails ou au moins bootstrappés dans ce framework, puisque là, tout à l'heure, tu as parlé de Basecamp.
Ouais, qui est l'un des plus gros. Mais
on dit qu'Apple en servira encore. Enfin, en tout cas, nous, j'ai vu une annonce, donc ça me semble être encore le cas.
On dit que, mais ça, on pourra pas le vérifier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Après, le plus connu des développeurs, c'est GitHub, hein, qui est entièrement fait via Ruby on Rails, qui notamment a été racheté par Microsoft, et donc Microsoft a aussi mis en place, donné la possibilité d'installer et d'utiliser Ruby et Ruby on Rails sur ses serveurs ou autres, ou même de déployer Ruby on Rails sur Azure plus facilement. Il y a le fameux Airbnb aussi, qui est en Ruby on Rails. Il y a Shopify qui permet de faire des sites e-commerce très facilement, et c'est en Ruby on Rails aussi. De mémoire, il y avait Twitter, je crois qu'ils l'ont entièrement reconçu, ou pas entièrement, mais il était à la base sur Ruby on Rails, et je crois qu'ils l'ont recodé en, bon, je sais plus, un autre langage. Et bon, pour ne citer que, ça fait partie quand même des gros sites que tout le monde utilise. Alors c'est pas Facebook hein, qui est sous PHP, mais je pense que Twitter a quand même quelques millions d'utilisateurs et ça tournait du moins quand c'était encore sous Ruby on Rails très très bien.
Donc on a un framework qui est en langage interprété, et malgré tout ça scale pour pas trop cher donc.
Complètement. Et si tu fais attention aux performances et aux bonnes pratiques, il n'y a aucun problème.
Il y a des outils justement pour vérifier si on a des points d'optimisation qu'on peut faire et tout ça quand on...
Il y en a, il y a quelques librairies ouais, qui te permettent de connaître notamment les performances de tes requêtes SQL, les performances de tes vues, le temps d'exécution de diverses choses. Qui sont à jour, qui fonctionnent très bien, tu les installes, ça te met un petit rapport sans problème, ça te permet justement d'optimiser un maximum.
En soit, Ruby on Rails a été popularisé à partir de quel moment? Vers 2005-2006
Ah ouais, au moment de...
Et c'est quoi qui l'a popularisé? C'était le fait qu'il y avait Bootcamp et d'autres projets de la Silicon Valley qui décollaient?
Basecamp, ouais.
Basecamp, pardon.
Tu peux le refaire, toi, bien.
Non, ça va. Ça va, on va dire.
Non, c'est ça. Principalement, c'est ça. Et après, beaucoup de développeurs sont mis dessus. Beaucoup de développeurs l'ont utilisé, des startups. Et globalement, ça reste le cas un peu partout, dans le monde. Il y a qu'en France où ça a un petit peu tapé de l'aile. Il n'y a pas eu forcément les formations pour, au niveau des écoles. Il n'y a pas forcément eu d'engouement. Mais quand on regarde les diverses conférences aux États-Unis ou au Japon ou n'importe où, ça reste un langage et un framework quand même bien utilisé.
Ruby on Rails propose, contrairement à la plupart des frameworks, en général ils proposent une vue, mais c'est des vues statiques. Ruby on Rails, on est vraiment sur, d'ailleurs dès les débuts, d'ailleurs si je me trompe du framework, où on fait du dynamique, où on a du jQuery qui fait de l'insertion, de l'injection en fait de portions d'éléments au lieu de redessiner l'entièreté de la page, et ce qui donne finalement cette impression de rapidité et de fluidité. Mais Ruby on Rails, ils utilisent toujours jQuery. Je crois d'ailleurs qu'au tout début, ils utilisaient Motools.
Oh.
Ça remonte. Hein.
Ouais. Moi, je suis arrivé à la fin.
Je ressens les dossiers, monsieur.
Ouais, ouais. J'allais faire arriver à la fin de Ruby on Rails 2, avec encore Ruby 1.8.6 ou 1.8.7, je sais plus. Et ça a beaucoup changé depuis Ruby on Rails 3. Alors oui, Motools, non, j'ai pas connu cette partie-là. J'ai connu la partie jQuery. Effectivement, on pouvait recharger des bouts de page dynamiquement. C'était complètement invisible à l'œil de l'utilisateur. Et ça fait une grande force à ce framework-là. Depuis le 7, Ruby on Rails 7 qui est sorti il y a pas longtemps, ils ont viré jQuery. Tu peux mettre ce que tu veux. Ils ont viré Webpacker aussi. Donc ils ont leur propre système de compilation de tout ce qui est JavaScript, TypeScript, SAS, etc. Et tout fonctionne maintenant encore plus fluidement qu'avant. Ça fonctionne.
Oui, c'est plus fluide. Enfin, c'est plus lean.
C'est plus lean.
Je rappelle qu'on est dans la journée de lutte contre le franglais, au moment où on enregistre.
Et non, voilà. Donc, la Rails 7 a vraiment mis un gros coup sur les performances, notamment avec aussi Ruby 3. Je crois qu'on va en reparler après. Mais si, voilà, s'il faut démarrer un projet, il faut le démarrer avec Rails 7 et Ruby 3. Ceux qui étaient frustrés des performances de Ruby 1.8 et 2 points et quelques, et Rails en dessous de 6.5, vont voir une différence considérable maintenant avec les nouvelles versions.
Quelqu'un a desserré le frein à main, enfin.
C'est ça.
Donc, il y a une nouvelle version de Ruby. Enfin, moi, j'ai pas trop suivi. Donc, on était à Ruby 2 et Ruby 3, donc, il a été lancé.
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7. Il y a eu un gros changement en 2.7. C'est passé en 3.
C'est-à-dire que là, ils ont changé de numéro de version majeure parce que là, il y avait des incompatibilités, par contre.
Alors, très peu. C'est pas comme de passer de Python 2 à Python 3. Oh, là, par contre, c'était vraiment problématique.
Ouais. Hein,
là, on peut très bien... une application qui tourne sur Ruby 2.7, la passer en Ruby 3, c'est pas une montagne à surmonter. Et non, par contre, niveau performance, c'est considérable.
D'accord. Est-ce que des clients viennent te voir et te demandent spécifiquement à ce qu'un nouveau projet soit développé par Atnos en Ruby on Rails?
Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Il y en a, alors.
Des fois, il y en a qui viennent te voir en te disant, mais on ne veut pas de Ruby, on veut pas Ruby, et ils comprennent pas.
Non, alors, il y a les clients qui viennent, qui disent, on veut absolument du WordPress pour faire un site, une machine de guerre. Bon, là, je réponds qu'on fait pas de WordPress.
Et puis, c'est fait. Enfin, c'est parce qu'ils aiment les sites à problème.
C'est ça, exactement.
Enfin, c'est les sites à trous. Pardon. Les copains de WordPress Toulouse, si vous m'écoutez,
oui,
c'est gratuit,
c'est pas méchant.
C'est désolé, c'est parti tout seul. Voilà.
Ça marche très bien à WordPress, il n'y a pas de souci. Si on filtre les IP en interne avant d'arriver. Non, il y a les deux cas de figure. Il y a des clients, des prospects qui viennent parce qu'on fait du Ruby, parce qu'ils ne trouvent pas de développeur Ruby, malheureusement. Mmh. Et il y en a qui viennent avec un projet, et là, on fait le projet généralement avec Ruby on Rails. S'il faut une SPA, on prend de l'Angular, et on fait une SPA avec une API Ruby on Rails, par exemple.
SPA, donc
Single Page Application.
Ouais, donc les pages qui ne se rechargent pas, et tout ça qui reste...
Voilà. Il faut savoir qu'on peut faire...
L'étape juste avant les Progressive Web Apps, quoi.
C'est ça. Mm-hmm. Et on peut faire du SPA, enfin, un semblant d'SPA avec Rails 7 aussi. Mm-hmm. Maintenant, enfin, on peut très bien intégrer une application entièrement sous Rails 7 et avoir l'impression qu'on est sur une SPA. Mmh.
Du coup, quand les clients viennent te voir parce qu'ils veulent du Ruby on Rails, qu'est-ce qui les motive derrière ?
Bonne question aussi.
On n'a que des bonnes questions.
Que des bonnes questions.
Il faudra vraiment mettre une note de service sur le fait qu'il ne faut pas nous dire qu'on pose
des bonnes questions. Je suis d'accord. Non, honnêtement, c'est très rare. C'est très rare. Et s'ils viennent, qu'ils nous disent qu'ils veulent absolument du Ruby on Rails, c'est qu'ils ont déjà un passif avec du Ruby on Rails. Donc, ils ont déjà des librairies, ils ont déjà une application qui tourne. Il y a déjà quelque chose. On vient plus nous voir en disant, on nous a parlé de WordPress, vous pouvez faire le site en WordPress, ou on vous oblige à faire le site en WordPress, plutôt que, on a entendu parler de Ruby on Rails, est-ce que vous pouvez le faire sur Ruby on Rails? C'est même quasiment...
Et en général, dans ce cas-là, dans ce scénario, tu viens comment ? Tu viens pour bootstrapper un projet, ou bien ils ont déjà une équipe et ils ont besoin d'un senior, justement, pour les coacher de ce côté-là, pour consolider, justement, la qualité, la solidité, les performances.
C'est plutôt dans ce cas de figure-là. Hein. Mmh. On vient en support, justement, amener notre expertise au niveau performance, niveau organisation, au niveau refonte. C'est principalement tout ce qui est refactoring de code. On amène notre expertise, parce que globalement, les projets de start-up, par exemple, sont créés à la va-vite avec une équipe de développeurs qui est parfois souvent volatile, on sait ce que c'est. Derrière, il y a le code qui est fait.
Tu me vises ?
Non.
D'accord.
Je vise tout le monde.
Ça tire à vue aujourd'hui.
Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, si j'avais bien un conseil à donner... Un développeur qui se cherche un petit peu, qui sait pas s'il veut faire du PHP, du Python, du Ruby, c'est au contraire, au lieu d'aller sur un langage qui est très utilisé, peut-être s'orienter sur un langage qui est moins utilisé, il aura peut-être plus de débouchés derrière, alors pas tout de suite, mais plus de débouchés soit à l'étranger ou même en France, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent des développeurs Ruby. On en a encore en Espagne qui nous contactent. Parce qu'ils trouvent pas de développeurs.
Oui, je rappelle que Toulouse est pas très loin de l'Espagne. On est à 2h30 de route. Voilà.
C'est ça. Voilà.
Ça aide un petit peu. Donc,
donc voilà.
Et du coup, puisqu'on parlait justement de jeunes développeurs qui veulent s'y mettre, est-ce que toi, tu donnes des formations ou non, justement, de ce côté-là sur le langage Ruby?
J'en ai donné. Dans ma jeunesse.
D'accord.
Dans une école qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Mais, j'en ai donné un petit peu. Après voilà, on a des contrats pro qu'on forme, donc ça m'arrive.
Et si quelqu'un veut s'y mettre, alors je tiens à signaler qu'on va mettre pas mal de liens sur la page web de l'émission cpu.pm pour apprendre le Ruby, dont plusieurs sites qui sont vraiment excellents comme LearnX in Y Minutes ou encore Code Wars, où on apprend un langage par les katas. Je tiens à signaler que je me suis formé à des langages quand même,
il est excellent ce site.
Oui, ben justement je m'y...
Il y a Exercism aussi.
Ouais, non mais je connais Code Wars et j'ai appris 2-3 langages que j'ai utilisés professionnellement justement par ce biais-là. Et justement, je me suis remis à niveau pour cette émission sur le Ruby après 12 ans, 13 ans justement par ce biais-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a des formations qui sont spécifiques en France sur lesquelles on peut apprendre, soit en formation en post-bac, soit en formation continue?
Je pense que c'est des formations complémentaires. J'ai peut-être pas forcément donné le nom. Il y en a certaines qui ont bonne réputation, d'autres qui ont pas forcément bonne réputation. Il y en a. Je pense que la meilleure formation, ça reste de se former soi-même en étant sur les channels Slack ou Discord spécifiques, Rails, en étant sur CodeWars, en étant sur des sites vraiment spécifiques. Et honnêtement, moi, j'ai appris comme ça, ça a très bien fonctionné. Alors, c'est sûr qu'il faut parler anglais.
Il n'y a pas une communauté francophone, il y a pourtant des Québécois, des Africains qui...
Il y a Paris RB, qui est une grosse communauté parisienne. Il y a eu Toulouse RB, malheureusement.
Oui, enfin là, on sort de deux années de confinement. Oh, on a plein d'assauts qui ont disparu.
Ouais, mais... Même, je crois qu'elle a été fermée avant. Mais il y a la communauté principale, ça reste Paris RB et Ruby on Rails Link, je crois, sur Slack. Et après, c'est Twitter, principalement. Toutes les bonnes adresses, toutes les bonnes infos sont sur Twitter. Il y a Chris de gorails.com aussi qui fait beaucoup de tutos, vidéos. Donc un petit peu, tout le monde, les jeunes, ils me parlent toujours de graphic art, c'est ça ? Pour apprendre, que je connais, que j'utilise pas du tout. Et moi, je leur parle de gorails.com.
Alors disons, là, puisqu'on est principalement une émission de radio avant d'être un podcast avec une zone de radiation sur Toulouse, alors je sais, t'es juste à la limite, normalement. C'est-à-dire, si tu captes FMR, c'est que tu captes aussi FIB. Si tu captes pas FIB, tu captes pas FMR. En FM, je précise. En DAB+, peut-être que tu nous captes. Mais disons, s'il y a plein de commentaires sur la page web de l'émission consacrée à Ruby sur cpu.pm, est-ce qu'on pourrait organiser, je ne sais pas, une soirée justement là-dessus?
Ah ben carrément, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors là, si on peut faire des présentations, même une petite formation ou n'importe quoi pour montrer justement la puissance du framework, justement que maintenant, on retrouve quand même un petit regain de Ruby et de Ruby on Rails, donc effectivement. Ouais,
j'allais dire qu'on, j'espère qu'il allait avoir un regain surtout des afterworks et des coding dojo et tout ça. Ça manque sérieusement.
Ouais, alors là, c'est notre le conseil. Effectivement.
Ça nous manque.
En ce moment, c'est pas la joie, mais ouais,
voilà.
C'est ça. Ben grand plaisir.
D'accord. On parlait de Ruby on Rails justement comme framework, mais tu m'as plus ou moins dit, regarde du côté de Crystal. Alors qu'est-ce que c'est que Crystal?
Alors, on faut être clair, Crystal, c'est pas Ruby. D'ailleurs, je crois qu'ils le mettent sur leur site. Crystal, c'est ni plus ni moins que la syntaxe de Ruby, mais dans un langage compilé, donc à typage fort.
Donc un peu comme Cython, par exemple, pour Python, ou HHMM pour PHP.
Oui, ouais, complètement. Et donc c'est un langage qui est récent, qui a été inventé par une société qui s'appelle Manas, je crois, en Argentine, ou je sais plus trop où. Et qu'ils ont repris le concept vraiment clair, précis du langage Ruby. Tout est objet, tout est facile à lire, tout est facile à utiliser. Sauf qu'ils ont mis ça dans un compilateur qui est aussi écrit en Crystal. Et derrière, ça donne des performances incroyables, puisqu'on est, on se rapproche du Go, on dépasse même le Go et le Java dans certaines situations. Donc on peut arriver à traiter des données très rapidement.
La marche à franchir pour apprendre justement depuis Ruby à Crystal, elle est compliquée, elle est...
Et non, justement, la seule chose qui manque,
c'est quasiment transparent.
Ah, c'est pas quasiment transparent parce qu'on on incorpore quand même le typage de données. Donc, faut savoir si un entier on l'a déclaré en int 32 ou en int 64. Là, c'est pas non plus la mort. Mais derrière, tout est quasiment pareil. Donc, ça va très très vite. Alors, bien sûr, Crystal, c'est restant. Il y a des frameworks comme Lucky Framework qui reprennent les concepts de Ruby on Rails adaptés pour le langage Crystal, mais c'est tout récent, donc il n'y a pas toutes les librairies, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à la main, etc. Globalement, nous, on utilise Crystal quand on a, par exemple, une API à faire avec du traitement de données rapide. Si on doit traiter un fichier CSV qui fait 100 000 lignes, en Ruby, ça va prendre 20 secondes, en Crystal, ça prendra 1 seconde 5. Alors, clairement, le gros avantage, il est là. Et je pense que ce langage va aussi grandement faire parler de lui dans les prochaines années. Notamment, tu as un gros constructeur de semis américain qui a conçu tout son logiciel interne au camion en Crystal.
D'accord, ok. Voilà. Tu disais « on » à propos de Atnos, puisque ça a longtemps été une entreprise unipersonnelle, si je me trompe.
Ouais, de 2007 à 2014. Ouais.
D'accord. Et actuellement, donc, vous êtes combien dans l'équipe? Si on peut parler de ceux qui enfin, de ceux qui sont dedans, combien il y a de devs actuellement à l'intérieur?
Combien il y a de devs? On est 1, 2, 3, 4, 5.
Et quel est le, à peu près le niveau
Le niveau de chaque dev?
Ouais.
On a un contrat pro, et après, donc...
Donc il y en a qui apprennent justement en arrivant chez toi.
Ouais.
Et en combien de temps, en fait, ils arrivent vraiment à lancer? Vous avez... Vous le faites en pair programming, je sais pas comment.
Si, oui, ça. De toute façon, la meilleure façon d'apprendre, on est bien d'accord, hein. Pair programming, surtout qu'il y en a qui sont en full télétravail.
Ah non, moi j'ai appris tout seul un langage de malade et on m'a mis sur un très gros projet industriel. J'ai à peine pleuré.
T'as bossé à la SNCF?
Non.
Non, pair programming, il y en a qui sont en full télétravail. Donc, partage d'écran, etc. On met sur des petits challenges au début, puis après on grossit un petit peu, puis on a tout un process de revue de code, pull requests, etc., qui sont majoritairement utilisés. Donc voilà, on améliore les compétences de chaque développeur comme cela.
Ouais. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci en tout cas, Bruno, d'être venu passer pour montrer un petit peu Ruby. Alors c'est vrai. On va avouer une chose quand même, c'est que quand on prépare les émissions CPU en général, on a un petit peu travaillé la matière. Donc moi, je m'y suis replongé justement dans le langage Ruby avec plaisir. J'avais un petit peu manipulé. Je trouvais que franchement, c'est vrai que c'est une syntaxe qui s'apprend très vite. Et là, 12 ans après, j'étais là, j'ai fait... Oh, alors je m'en souviens plus, etc. Ah oui, non, entre les deux barres pour les boucles forts et tout ça, et en fait ça revient très vite, c'est assez surprenant justement cette...
Ça revient très vite, et surtout quand on a une problématique, généralement on pense au mot en anglais, on va sur l'API, et on a la solution quasiment immédiatement. Ouais, si je vous conseille, et au moins utilisez, essayez Rails 7 et Ruby 3, c'est un bonheur.
D'accord, merci Bruno Perle.
Avec plaisir.